Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
À travers toutes ces années, j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, des histoires de Christian Page, mais à chaque fois, il arrive à me surprendre avec des affaires dont j'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si c'est moi qui vivais sur une autre planète, mais l'affaire Humo, oui. Ça ne me dit absolument rien.
C'est vrai que c'est une histoire qui est bien connue des amateurs d'OVNI, mais en dehors de ce milieu-là très sélect, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette histoire-là. Et pourtant, c'est probablement l'événement qui, à mon avis, a le plus de sens sur l'aspect sociologique. Parce que moi, quand j'ai commencé dans les phénomènes paranormaux, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le phénomène. Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Et avec les années, mon intérêt s'est un peu transformé. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout dans les phénomènes paranormaux, c'est de voir comment ces phénomènes-là, quelle est la place qu'on leur donne dans la société et pourquoi on y adhère, pourquoi on croit aux fantômes.
OK, donc c'est le phénomène anthropologique.
Voilà, donc il y a un aspect beaucoup plus social par rapport au phénomène, puis que les fantômes existent ou non, pour moi, c'est devenu un peu secondaire. Dans l'affaire Humo, on est vraiment dans une analyse sociologique tout à fait extraordinaire. Donc, on fait ce bond dans le temps, on se ramène, on est le 2 juin 1967. Comme des milliers d'Espagnols, des gens de la région de Madrid, ils découvrent ce matin-là, en ouvrant leur journal, le journal Información, ils découvrent deux photographies dont je t'ai amené ici, les fameux clichés. Donc, je vais les décrire un peu pour les auditeurs. On y voit, en fait, en arrière-plan, le château de San José de Valderas. C'est une petite banlieue qui se trouve au sud-ouest de Madrid. Et on y voit donc en arrière-plan ce château. Et au-dessus du château, on voit cet objet, une machine qui ressemble à une soucoupe volante. En fait, deux bols qui semblent renverser l'un sur l'autre. Et on voit en dessous, sur la position ventrale de cet ovni, on voit une espèce de J cyrillique qui ressemble à un H dont la barre horizontale serait traversée par une ligne. Donc, les gens voient ces images-là et elles ont été envoyées au journal de manière anonyme.
Mais le journal en fait sa une.
Donc, le journal en fait sa une. Voilà, un lecteur nous envoie ses photographies. L'événement s'est produit la veille, donc le 1er juin 1967. Et les gens de la région de Madrid découvrent cette histoire-là. Mais en fait, ça devient un peu la première étape publique de l'affaire Humo. Mais l'affaire a commencé en sourdine un an plus tôt. On est au printemps de 1966. Il y a à Madrid un groupe de gens un peu illuminés qui se réunissent autour d'un type qui s'appelle Fernando Sesma. On l'appelle le professeur Sesma. Mais en réalité, il travaille à la compagnie du télégraphe, il n'est pas professeur. Et tu vois, lui, il se déclare en contact avec des extraterrestres. Le lundi, c'est les Martiens, le mardi, les Vénusiens, le mercredi, les Saturniens, tu vois un peu le genre. Et tous ces gens-là se réunissent à Madrid dans un petit café.
Pour l'écouter.
Oui, le café de Léon. Et au sous-sol, il y a une pièce, une salle de réunion. Et sur un des murs, il y a une baleine souriante. Et on appelle cette salle la salle de la baleine joyeuse. Donc, tous les samedis soirs, les gens se réunissent là et écoutent les divagations de ce professeur Sesma. Et voilà qu'au printemps de 1966, il reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, quelqu'un qui parle en espagnol avec une voix nasillarde, un peu comme un canard. Il lui dit « Bonjour, je m'appelle DEI98, je suis un habitant d'Humo ». Alors, tu comprends notre monsieur Sesma qui, lui, lundi a les Martiens, le mercredi les Vénusiens. Est-ce qu'il a encore du temps pour les humites? Alors, ces extraterrestres, lui, racontent au téléphone, et ensuite, il va y avoir des courriers qui vont être reçus, lui racontent que ces gens-là sont débarqués en France en 1950. Ce sont des extraterrestres qui viennent d'une planète qui s'appelle la planète Humo.
OK. Le professeur, là, il dit qu'il a reçu un téléphone d'un extraterrestre.
Ouais. Et ensuite de ça, il va recevoir des courriers. Et là, il dit, les extraterrestres lui expliquent qu'on est arrivé en France en 1950. On vit depuis sur Terre parmi vous. On ressemble un peu à des Suédois, grands, blonds. En fait, on vit parmi vous sans que vous
soyez... On se mélange.
Voilà. Ouais, donc, okay. On est tellement semblables aux humains qu'il n'y a pas de différence. La seule chose qui nous différencie, c'est lorsque l'on parle, on a une atrophie du larynx, on parle avec une voix un peu de canard. Et ensuite, ils ont le bout des doigts sensibles. C'est pour ça qu'ils vont engager un secrétaire humain pour taper leurs lettres. Donc, cette affaire-là commence un peu en sourdine en 1966. Et voilà que les humides, pour prouver leur bonne foi, vont annoncer que le 1er juin 1967, ils vont faire un survol de San José de Valderas avec leur machine volante. Alors, tu comprends que lorsque le journal Información présente ces fameuses photos...
On fait un lien tout de suite.
On fait tout de suite un lien. Et dans le milieu, les gens qui entourent Fernando Sesma, on jubile. Les extraterrestres
sont là. Il avait raison.
Il avait raison. Ouais. Il est bel et bien en contact avec les extraterrestres. Mais crois-le ou non, pendant 30 ans, ce petit groupe vont recevoir des courriers de manière sporadique de ces soi-disant humides ou extraterrestres. Leurs courriers, au début, sont assez légers. Ils parlent de leur planète, comment ils y vivent. Et pour différencier leur courrier, pour l'authenticité des documents, ils sont souvent marqués d'une empreinte d'un pouce avec le logo de Humo, qui ressemble, comme je l'ai décrit, à ce J cyrillique, qui, dans notre alphabet, est une espèce de H coupé au centre, là-bas.
Le même symbole qu'on voyait.
Absolument. Ouais. Donc, ils prouvent leur... Et peu à peu, les courriers... Parce que tu comprends, c'est une histoire assez incroyable. Ou peu à peu, les courriers vont devenir de plus en plus techniques, voire technologiques. Et là, les humides, et je t'ai amené ici un courrier humide pour que tu puisses en juger, sont souvent écrits en espagnol. Et éventuellement, avec les années qui s'écoulent, 67, 1968, 69, leurs courriers vont de plus en plus s'émailler de dessins, de graphiques, de détails techniques. Et à un point tel... que la communauté scientifique vont commencer à s'intéresser à ça. Et l'un d'entre eux, au tout début des années 90, et pas le moindre, un scientifique français, Jean-Pierre Petit, l'un des pères de la magnéto-hydrodynamique, qui travaille au Centre national de la recherche scientifique à Paris, annonce publiquement que la plupart de ses grandes idées, il les a puisées dans les courriers humides.
Okay.
Pour lui, il est clair que ça ne peut pas être une blague d'étudiant. Donc, il y a quelque chose derrière cette affaire.
C'est des génies qui envoyaient ça, là.
Qui envoie ça, ce sont des génies. Et crois-le ou non, Marie-Hélène, par un concours de circonstances extraordinaires, en fait, on va découvrir que c'est un secret de polichinelle pour les autorités espagnoles. J'arrive, moi, je débarque en Espagne, on est au début des années 90, et là, je commence à parler avec des journalistes qui s'intéressent à des phénomènes paranormaux. Je suis là pour toute autre chose. Et puis, à un moment donné, bien sûr, l'affaire Humo tombe sur la table. Et un journaliste me fait une confidence incroyable. Il me dit... Tous les courriers humides ont été écrits par un membre de ce groupe-là qui s'appelle José Luis Roldán Peña. Et je lui demande, mais comment tu peux savoir ça? Parce qu'évidemment, on se doute bien qu'il doit y avoir un humain derrière tout ça. Il me dit, la police le sait. Et pourquoi? Parce que dans les années 80, est apparu en Espagne un petit groupe qui s'appelait les Amis des Humides. C'était une secte. Et en Espagne, on ne badine pas avec les sectes. Donc, les policiers ont interrogé ces gens-là, qui n'avaient rien à voir avec le groupe des Humides, là. Mais c'est une secte qui s'était développée parallèlement. Donc, on a interrogé ces gens-là. Et comme le nom de ce José Luis Roldán Peña, un peu comme un boomerang, revenait souvent lorsqu'on parlait de l'affaire Humo, on est allé le voir pour le questionner. Et devant les policiers, ce José Luis Roldán Peña, il a admis que depuis 30 ans, c'est lui qui avait écrit toutes les lettres des
hommes. Mais pourquoi il le fait de façon anonyme? Qu'il aurait été considéré comme...
Non, pour se moquer des gens. C'est un type qui disait « les gens sont stupides, les gens croient n'importe quoi ». En fait, l'affaire Humo est un extraordinaire exercice de sociologie. Et il montrait comment même le mot « humo » en espagnol signifie « écran de fumée ». Il dit « les gens là, sont tellement prêts à croire n'importe quoi. » À plusieurs reprises au cours des 30 dernières années, il émaillait ses textes de toutes sortes de références et les gens ont tellement voulu y croire.
Très intéressant.
C'est absolument stupéfiant.
Oui, c'est une étude anthropologique et sociologique.
Sur la volonté de croire.
Christian, tu restes avec nous parce que moi j'ai bien hâte que tu me parles de Bob Kennedy, son assassinat, savoir
absolument.
Si on arrive à avoir des pistes un petit peu plus
éclairantes. L'un des grands complots du 20e siècle.
Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Senator Kennedy has been shot. Is that possible?
No! Oh my God! Senator Kennedy has been shot and possibly shot in the head. I am right here. Rayford Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. He has fired the shot. He still has the gun. The gun is pointed at me right at this moment.
C'était le 5 juin 1968. Robert Bob Kennedy venait d'être assassiné.
Effectivement. Donc, il avait passé la soirée à l'Ambassadeur Hotel. Il était en pleine campagne pour l'investiture du Parti démocrate. Et là, un peu après minuit, il dit à ses supporters, on va se retrouver à Chicago. Et là, on l'entraîne pour sortir de l'hôtel, pour éviter la foule qui se masse devant l'hôtel. Mm-hmm. On l'entraîne vers les cuisines. Et à ce moment-là, un peu après minuit, alors qu'il entre dans les cuisines, un homme se précipite sur lui et l'abat de plusieurs... En fait, il va décharger son
plusieurs
arme...
Plusieurs coups de feu,
Plusieurs coups de feu. Il décharge son arme contre Robert Kennedy. C'est un petit calibre, un revolver de calibre 22. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un journaliste de la CBS qui accompagnait Robert Kennedy. Le magnétophone était ouvert, donc on entend sur le vif ce qui se passe à ce moment-là. L'homme en question, un jeune ressortissant palestinien de 24 ans, Siran, est vite immobilisé, arme au poing. Il n'y a aucun doute qu'il est l'homme.
Donc, il est pris sur le fait.
Il est pris sur le fait. Alors, on se dit, il n'y a pas de doute, c'est l'homme qui a tiré sur Robert Kennedy. Mais il y a des petits éléments qui, au cours de l'enquête, vont apparaître. D'abord, ce Siran, c'est un personnage un peu mystérieux. On ne lui connaît pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'antécédents criminels. On va retrouver chez lui à peu près la seule preuve qui joue en sa défaveur. C'est une longue lettre où il a répété à sa société simplement RFK must die, Robert Francis Kennedy doit mourir. Et il l'a répété sur toute la feuille. Quand on l'interroge, il va toujours maintenir la même version. Et tu vas voir que cette version-là, elle nous amène en plein dans la théorie du complot. La version de ce Siran, c'est il s'est présenté sans trop savoir pourquoi à l'Ambassadeur Hotel. Et ce soir-là, il a croisé une femme avec une femme qui avait une robe à pois. Elle l'a amené prendre un café. Ils sont allés dans une espèce de loft. Ils ont discuté un peu. Et ensuite, c'est le passage à vide. Il se réveille.
Il ne se rappelle plus rien.
Il a l'impression de se réveiller, arme au poing, et il n'a aucune idée pourquoi il a tiré sur Robert Kennedy. Et c'était vrai en 1968, et c'est encore vrai aujourd'hui. En tout début d'année, Siran, qui est toujours en prison, a passé devant la commission des libérations conditionnelles. Il en était à la énième fois.
On lui a refusé.
Il a répété la même histoire, toujours cette idée de cette femme à pois et ce passage à vide. Et là, ensuite, c'est vrai que l'enquête policière est un peu bâclée.
C'est plein d'incohérences,
Très rapidement, la police de San Francisco vont faire retirer des montants de portes qui indiquent bien qu'il y a eu plus de coups de feu que Siran aurait pu en tirer. Et pourtant, tous les témoins jurent que les seuls coups de feu qui ont été tirés ce soir-là sont ceux de Siran.
Donc, est-ce qu'il y avait des coups de feu qui provenaient d'ailleurs?
Qui provenaient d'ailleurs. Le rapport d'autopsie, c'est Thomas Nagoshi qui va être le médecin du département du comté de Los Angeles, célèbre pour avoir fait l'autopsie notamment de Marilyn Monroe, de James Dean, donc on le voit, c'est un personnage assez en vue. Dans son rapport d'autopsie, le docteur Nagoshi dit « La balle qui a tué Robert Kennedy est une balle qui a été tirée à moins de 3 cm derrière l'oreille droite du sénateur. » Mais tous les témoins qui étaient sur place disent « Non, Siran ne s'est jamais approché à plus d'un mètre de Robert Kennedy. Et il n'a jamais été derrière lui. » Alors, tu comprends, les autorités disent « Oui, mais dans le chaos, peut-être que Robert Kennedy s'est tourné légèrement, s'est balancé vers Siran, et il aurait tiré à ce moment-là. » Mais tu comprends que tout ça semble très mystérieux. Et on sait que dans les années 50 et 60, bon, d'abord dans les années 60, les Kennedy s'étaient mis à dos le monde interlope, mais on sait également que dans les années 50, la CIA avait travaillé un mystérieux projet, le projet MK Ultra, qui était de faire des candidats de Mandchourie, des espèces de tueurs hypnotisés qui seraient devenus soudainement des machines, des bombes à retardement. Est-ce que Siran était l'une de ces bombes à retardement? Et ça nous amène dans un complot qui aurait été ourdi au plus haut sommet
de l'État.
Si c'est
le cas, est-ce que le gars sera coupable ou pas?
Voilà. Est-ce qu'il a commis son crime sans même savoir qu'il était manipulé par les autorités quelque part?
Vraiment intéressant.
Une histoire incroyable. Le projet MKUltra, la mort de Robert Kennedy, et à ça, bien sûr, on peut ajouter des morts comme celle de Martin Luther King. Ce sont des histoires, des morts qui ont eu des impacts politiques, et il y a toutes sortes de zones d'ombre.
Il n'y a rien de résolu vraiment dans toutes ces histoires-là.
Encore en début de semaine, les petits-fils de Robert Kennedy ont maintenu qu'ils étaient persuadés que Siran n'était pas le seul homme à avoir tiré sur Robert Kennedy.
Père, quand même.
Donc, il y a des zones grises.
Merci beaucoup, Christian.
Ça me fait plaisir.
Prochaine.
Oui.